France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Prix Nobel de littérature en 1959, l'un des plus grands poètes italiens, sicilien plus précisément, du XXe siècle, il était le sujet, absent mais traduit, lui-même grand traducteur de lyrique grecque, d'une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 février 1964. Salvatore Quasimodo, né en 1901, qui allait mourir en 1968. Salvatore et Quasimodo, l'auteur entre autres de « La vie n'est pas un songe ».
Une discussion avec Salvatore et Quasimodo, prix Nobel de littérature 1959, n'est pas en apparence chose facile. Il semble en effet que l'interlocuteur soit retenu par quelque chose d'inexplicable, une sorte de prévention créée par les images les plus traditionnelles du poète. Son visage excessivement statique, ses yeux petits, au regard comme pétrifié, l'agressivité vaguement sous-entendue de son esprit. Celui qui ne connaît pas les Siciliens, et surtout la nature de certains Siciliens, se sent instinctivement détaché de l'homme. Car, à l'homme qu'est Quasimodo, on arrive seulement en forçant ce masque naturel de défiance, en pénétrant, mais avec une extrême prudence, dans la région infiniment sensible de l'artiste. Mais une fois la glace rompue, on découvre une chaleur, une adhésion, et même une courtoisie souriante qui révèle sa vraie personnalité. On trouve alors, en Quasimodo, le fond de pudeur, et nous pouvons même dire de timidité, du Sicilien de race.
Né à Syracuse en 1901, Quasimodo, tout enfant, abandonna sa maison. Il s'enfuit, comme lui-même le raconte, une nuit avec un court manteau et quelques poésies en poche. Et ce fut une vie délibérément rude, harcelée de mille difficultés. Aux études techniques qui firent de lui un expert arpenteur, puis un fonctionnaire du génie civil, s'ajoutait son activité au Tempo de Rome, comme poète et critique théâtral. Mais dès 1921, avec une rigueur consciente, Quasimodo avait commencé à se rapprocher des langues classiques. Le futur traducteur émérite des lyriques grecques naissait ainsi d'un amour tout instinctif pour le monde classique. Et par cette même voie, l'influence grecque prenait racine dans l'âme du poète comme une époque spirituelle et solennelle, peut-être même tragique, de ce tragique antique qui traverse le fond de sa poésie et donne à sa voix, déjà si singulière et solitaire, un timbre profondément différent de celui de ses contemporains. Des voix à l'écho si intense de Ungaretti et de Montale.
Les époques de la poésie de Quasimodo, de Ed è subito sera à Giorno dopo giorno, de La vita non è sogno au Falso e vero verde, scande l'acquisition de ces vérités fermées et terribles, et cependant si humaines. Voici qui explique l'intérêt général qu'a suscité son œuvre, et en particulier les traductions qui en sont faites dans les principaux pays du monde. La diversité de ses champs d'action, de ses occupations, il est, entre autres depuis plusieurs années, professeur dans un institut supérieur de Milan, n'ont pas altéré, chez Quasimodo, son caractère essentiellement réservé. Et voici le texte de l'entretien accordé par le poète à Guido Di Pino, professeur de littérature italienne à l'Université de Messine.
Si l'on se reporte aux données biographiques et à l'exemple d'une tradition spécifique, de Verga à Pirandello, il semble que l'insistance de la critique sur les caractères siciliens de votre poésie soit justifiée. Ne croyez-vous pas que cette tendance de la critique puisse conduire à une compréhension restreinte, voire même équivoque, de votre monde poétique?
En effet, la critique fait souvent allusion au caractère sicilien et au caractère grec de ma poésie. Le premier est compris de façon erronée, comme l'a fait d'ailleurs De Robertis, comme une expression de tristesse presque funèbre, préordonnée et schématique. Le caractère des Siciliens, voyez-vous, lié au paysage, est dominé dans mon œuvre par la présence permanente du monde contemporain, surtout européen. Quant au caractère helléniste, outre mon ascendance grecque, que vous connaissez, il m'est venu après ma traduction des Lyriques grecques. Je vous en parlerai d'ailleurs à propos du travail de la traduction.
Dans vos écrits, la Sicile est présente sous deux aspects. Il y a une Sicile mythique et une Sicile humble et sociale. La première est en accord avec votre sentiment aigu de l'influence grecque. La seconde est le reflet d'une époque plus directement humaine. Ceci admis, à quel endroit est-il possible de retrouver l'unité focale de cette conscience sicilienne?
La Sicile mythique n'a pas été pour moi un fait culturel, c'est-à-dire un rappel des désirs d'une enfance homérique qui remonte à des millénaires, mais un rappel de lieux précis tels que, par exemple, là où a vécu un Pétrarque, un Léopardi, un Ligure ou un Lombard contemporain. Par conséquent, le mythe et la société actuelle coïncident toujours au moment où se décide l'impulsion créatrice. Les pauvres et les exilés existent partout au monde, d'où l'universalité de ma poésie et l'absence de ce régionalisme historique ou épique que la critique a attribué à tort à l'œuvre de Verga et de Pirandello.
Au-delà de toute considération de contenu, il semble possible, et vous me pardonnerez ici un néologisme, de parler de religiosité de votre inspiration. Acceptez-vous en principe cette interprétation de la critique?
Bien, plus que religiosité, comme vous dites, je dirais plutôt exigence spirituelle, qui à chaque époque de la vie peuvent se présenter à l'homme et par conséquent au poète. La critique a parlé à ce propos d'une puissance suprême invoquée par moi, c'est-à-dire par mon cœur païen, dans l'architecture de mon lyrisme de la solitude. Je n'ai jamais compris pourquoi ce Dieu devait être un Dieu inventé plutôt que le Dieu des chrétiens.
Un critique a pensé que, giorno dopo giorno, marque la fin et le dépassement d'une crise de style et de contenu. Êtes-vous disposé à accepter cette distinction?
Ce n'est pas seulement dans Giorno dopo Giorno, mais également dans les nouvelles poésies et dans les volumes précédents qu'existe cette recherche assidue d'un langage concret et direct qui est le sommet du discours humain de Leopardi.
Il y a dans votre lyrisme un sentiment de douleur, constante qui monte, tel un destin, de la forme même de la vie jusqu'à l'homme. Le vent, la terre, la violence des jours, la guerre, qui a nettement inspiré un moment de votre œuvre, a-t-elle opéré, outre une confirmation, un déplacement ou peut-être même une dilatation de ce thème?
Oui, le drame a toujours été présent dans mon œuvre, du premier vers au dernier. La guerre, comme l'a dit un critique, a rendu réel une sorte de pressentiment qui, bien que créateur, était humainement sensible à l'histoire sanglante qui se préparait depuis mon enfance mythique.
La qualité de votre œuvre de traducteur, surtout des Grecs, a suggéré à vos interprètes un rapport entre traduction et poésie. À votre avis, quelle influence l'exercice de style inhérent à la traduction a-t-il eu sur votre expression poétique?
Déjà en 1938, quand je traduisais les Lyriques grecques, j'avais écrit que traduire signifie lire un texte écrit dans une autre langue, avec son propre langage, disons plutôt même avec son propre style, puisque c'est de l'emploi du vocabulaire, de la grammaire, de la syntaxe, dans la structure et le ton de l'expression, que je veux parler. on a dit de mes lyriques grecques qu'il m'avait servi de leçon pour éclaircir mon hermétisme. Mais les poètes grecs, avec leur syntaxe et leur style, ne pouvaient pas transformer mon langage. Car dans ce cas, pourquoi ne l'aurait-il pas fait avec Monti et Pindemonte? C'est le contraire plutôt qui est vrai. J'ai donné mon langage à Sappho, à Alcée, à Ibicos, à Érine, comme Pindemonte et Monti avaient donné le leur à Homère. Le philologue peut identifier le sens, par exemple, des mots brûlés, calcinés, consumés. Mais c'est seulement le poète qui décide, au-delà du goût particulier, à cet endroit déterminé du vers et de la phrase, la nature du mot à faire accorder par le son des voyelles et des consonnes avec les mots voisins ou lointains.
Sans aucun doute, certains aspects formels de votre lyrisme, par exemple la lettre et l'hymne, doivent être pris dans une acception qui semble unique dans le lyrisme contemporain. Dois-je penser qu'il s'agit là des aspects d'une formulation intimement dramatique de votre poésie ?
Il y a ce désir de théâtre, si je puis dire, aussi bien dans la lettre que dans l'hymne, puisque vous venez de le traduire en français, que j'avais indiqué comme possibilité expressive de la nouvelle génération poétique. J'ai déjà parlé de la nature dramatique de mon lyrisme, et ces deux résolutions épiques confirment que dans la tradition lyrique italienne, les poètes ont toujours atteint les formes dramatiques et tragiques, voyez par exemple Dante, Pétrarque et Le Tasse, sans inquiéter leurs descendants, et peut-être pas même leurs contemporains parfois.
Pour quelles raisons et par quelle voie la tradition lyrique italienne peut-elle avoir influé sur la formation de votre prononciation poétique?
Toute la tradition italienne, y compris les noms des plus grands poètes, se dégage clairement dans la formation de ma prononciation poétique. Depuis les auteurs nouveau style, dont il est possible de faire dériver mon hermétisme, qui n'est cependant ni symboliste ni décadent, mais opposé de la façon la plus absolue à la tradition française, jusqu'à Dante, Pétrarque, Le Tasse, Leopardi. Voyez-vous, Leopardi a été pour moi la référence la plus valable pour résoudre le concept de langage, encore incompris de la plupart des critiques italiens.
Sans vouloir absolument faire de polémique, puis-je toutefois demander si vous estimez que la critique ait exploré votre expression poétique dans toute son étendue et dans toute sa signification?
Eh bien, jusqu'à présent, la critique a fourni des suggestions de nature esthétique. Oui, des suggestions surtout, mais n'a pas vraiment analysé en profondeur les contenus, c'est-à-dire cette partie d'une œuvre poétique, une fois admise évidemment la validité du poète ou de l'écrivain, qui intéresse le plus l'homme pour définir la position de celui qui écrit ou communique par rapport au monde contemporain.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 février 1964. Quelques œuvres de Salvatore et Quasimodo, Où est-elle, jour après jour, la vie n'est pas un songe, donner et avoir, et soudain, c'est le soir.